Notre Dieu, on te remercie parce que tu as parlé, tu t'es fait connaître à nous et tu nous as donné cette révélation dans la Bible. On te remercie, notre Dieu, parce que ces versets que l'on va étudier maintenant font partie de ta parole. C'est ce que toi, tu as voulu nous dire. C'est ce que toi, tu veux encore nous dire aujourd'hui. On te prie, notre Dieu, que tu sois à l'œuvre en nous, par ton esprit, pour qu'on puisse comprendre ta parole et qu'on puisse être amené à reconnaître à quel point ta puissance est bien plus grande que tout ce qui existe dans ce monde. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie cela. Amen. Cette semaine, je recevais des nouvelles d'un ami qui a été missionnaire pendant plusieurs années au sein d'un peuple qui n'avait jamais entendu l'Évangile, qui n'avait pas accès à la bonne nouvelle de Jésus. Cet ami a été parmi ce peuple avec sa famille, ils ont été là-bas, ils ont appris leur langue, ils ont passé du temps avec eux, ils ont appris à les connaître et ils leur ont, avec le temps, partagé la bonne nouvelle de Jésus. C'était un peuple qui vivait dans toutes sortes de choses, de religions des ancêtres, de peurs constantes des esprits, qui étaient vraiment très loin, on pourrait dire, de la croyance en Jésus comme seul Seigneur et Sauveur. Et avec le temps, ces personnes se sont converties, se sont tournées vers Jésus, ont reconnu leur péché devant Dieu, le seul Dieu unique, et se sont tournés vers lui. Il y a une église qui est née, il y a plusieurs chrétiens qui se sont mis à suivre Jésus. Il y a eu vraiment des choses très encourageantes. Et cet ami revisitait ce peuple après plusieurs années, après qu'il était parti. Il y allait pour un projet de traduction de la Bible dans leur langue, pour confirmer la traduction, pour vérifier la qualité de la traduction. Et du coup, il envoyait des nouvelles. On voyait ces gens qui lisaient la Bible dans leur langue pour la toute première fois. On les voyait chanter des louanges à Dieu. On voyait que l'Évangile continuait à progresser, même après que cet ami soit parti là. C'était vraiment encourageant. C'est encourageant d'entendre des bonnes nouvelles du progrès de l'Évangile. Ça nous encourage en tant que chrétiens de voir que l'Évangile, la parole du Seigneur, continue à avancer. Et c'est ce qu'on voit un peu dans le livre des Actes, n'est-ce pas? On voit comment l'Évangile progresse pour la toute première fois. On voit le voyage missionnaire, en particulier de l'apôtre Paul, qui va de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle. Et on voit comment cette bonne nouvelle porte du fruit. On a vu la semaine dernière le beau ministère que Paul avait à Éphèse, dans la ville d'Éphèse. On a vu le résultat, c'est que tout le monde entend parler de la parole, c'est génial, c'est super encourageant. Et notre passage aujourd'hui, c'est la suite. Ça continue le récit du beau ministère fructueux que Paul a dans cette ville d'Éphèse. Continue à donner des bonnes nouvelles du voyage de Paul. Et en particulier, aujourd'hui, on va voir combien la puissance de Jésus est bien plus grande. C'est une réalité que ce monde est sous l'emprise de Satan, l'ennemi de Dieu. Il est, la Bible dit, le prince de ce monde, en Éphésiens 2. 1 Jean 5 nous dit que le monde entier est au pouvoir du malin, de Satan. Ce n'est pas que Satan aurait un pouvoir supérieur à celui de Dieu, comme on le verra. Ce n'est pas qu'il y a deux forces égales qui s'opposent. Non, pas du tout. Mais c'est néanmoins que son influence se fait ressentir dans la direction que prend ce monde. Alors que le monde cherche à tout faire pour s'éloigner de Dieu, pour mettre Dieu de côté, on voit l'influence de Satan dans ce monde. Il y a certains endroits où l'influence de Satan est particulièrement visible, particulièrement explicite, ouverte, tangible, comme c'était le cas à Éphèse. Quand l'Évangile atteint ces endroits, on voit de manière manifeste que la puissance de Jésus est supérieure. Il y a quelques années, j'étais à Madagascar, dans un petit village de brousse, où il y avait un missionnaire qui avait été là pendant plusieurs années pour annoncer l'Évangile. Et il nous racontait comment le travail missionnaire avait commencé là-bas, dans cet endroit-là. C'était aussi une région où les gens n'avaient pas entendu parler de Jésus. Le missionnaire qui était malgache, il y était allé dans ce petit village de brousse pour annoncer l'Évangile, mais aussi avec un projet humanitaire qui allait être vraiment bénéfique pour le village, pour la région. Mais dès qu'il est arrivé, le chef du village est venu le voir et lui a dit, tu as une force en toi, moi j'ai une force en moi, on verra laquelle est la plus forte. Ouh, bienvenue. C'est pas très accueillant, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça a commencé, et ce missionnaire a fait confiance à Dieu. Il a partagé l'Évangile, il a mis en place son projet, il a dépendu de Dieu. Et au fil des années, je vous fais la version courte, mais Dieu a complètement transformé la situation. Quand moi j'y étais, on est allé le dimanche dans l'église du village, en plein milieu du village, où il y avait une cinquantaine de chrétiens qui se réunissaient pour chanter les louanges du seul vrai Dieu. La force de Dieu a été plus forte. la puissance de Dieu a été plus forte. Et c'est la même chose qu'on va voir dans notre passage. Notre passage raconte le progrès de l'évangile à Éphèse, une ville où l'influence de Satan était particulièrement visible. Mais on va voir que c'est Dieu qui gagne. Le premier point qu'on a ce matin, et vous avez le plan dans le livret, c'est que Dieu confirme la parole par des miracles. Dieu confirme la parole par des miracles. Il nous est dit que Dieu fait à Éphèse des miracles extraordinaires au verset 11. Des choses qui sont vraiment impressionnantes, des choses qui ne sont pas normales dans un sens. On le voit au verset 12, acte 19, verset 12. « Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps, le corps de Paul, alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. » Les gens prennent des bouts de tissu que Paul a touché, l'apôtre Paul, ils essayent de les poser sur des gens qui étaient malades ou qui étaient possédés, et ça marche. Ils sont guéris. Alors peut-être qu'on peut être un peu surpris par cette manière de guérir. C'est un peu étrange, ça paraît presque magique, presque superstitieux. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? D'abord, on doit garder en tête que c'est Dieu qui est l'auteur de ces miracles. Ce n'est pas que Paul avait une puissance particulière en lui-même, comme s'il était un super-héros. En fait, notre passage est très clair, verset 11, le tout début. « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » C'est Dieu qui faisait ces miracles, c'est Dieu qui a le pouvoir de produire des miracles, pas l'être humain. C'est Dieu qui accorde des miracles et des guérisons. Oui, il le fait au travers de Paul, lié à sa personne, mais c'est toujours, toujours de Dieu que ça vient. On voit aussi que Paul ne se présente pas ici et jamais dans ses lettres comme un gourou, comme un faiseur de miracles. Je voyais cette semaine une vidéo d'un prédicateur, apôtre, prophète, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais qui proposait de recevoir son mouchoir béni. Il fallait simplement lui envoyer un peu d'argent, et puis on pouvait recevoir son mouchoir béni. Alors, vous savez, si on fait une liste des choses que les chrétiens font aujourd'hui que Paul n'aurait jamais fait, la liste est longue, ça ferait partie de la liste. Les choses qu'on dit, voilà, ça c'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui en tant que chrétien, mais qui est totalement étranger à ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'était frappant de voir le nombre de commentaires qui disaient « Amen, oui, c'est ça qu'il faut ». Mais ce n'est pas ça que Paul fait. Une telle manière de voir les miracles où la puissance serait dans un homme, dans son aura, dans son onction, c'est vraiment loin de la pensée de la Bible. La puissance vient de Dieu, toujours. Et si Dieu permet ces miracles, c'est pour manifester sa puissance. Les gens à Éphèse vivaient dans ce monde lié à la magie, dans toutes sortes de pratiques qui visaient à faire des miracles, qui visaient à essayer de guérir, de chasser les démons. Et là, à leur grande surprise, voilà quelque chose qui marche réellement. Ils appliquent les linges, les étoffes de l'apôtre Paul, ce gars qui prêche Jésus, et qu'est-ce qui se passe? Les maladies sortent, les démons sortent. Waouh! Ça pointe vers un pouvoir supérieur qu'ils ne connaissaient pas. Ça met en avant la puissance de Jésus. Et on voit d'ailleurs à la fin du verset 17 dans notre passage, le résultat de tous ces événements qui se passent à Éphèse. Qu'est-ce qui se passe? La crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Le résultat, c'est que le nom de Jésus est exalté, pas le nom de l'apôtre Paul. Donc ici, ce qu'on a, c'est un peu comme si Dieu s'accommodait à là où les gens à Éphèse étaient, aux croyances que les gens avaient, pour leur montrer qu'il y a une puissance supérieure, pour les amener à s'intéresser à la source de cette puissance et pour découvrir Jésus qui en est le centre. Et c'est intéressant de remarquer que ce n'est pas dans chaque ville où Paul a été qu'il a fait des miracles, ou en tout cas ça ne nous est pas rapporté comme ça dans le livre des Actes. On a vu les semaines dernières à Thessalonique, Bérée, Athènes, il ne nous est pas parlé de miracles que Paul aurait fait. Ce n'est pas qu'il n'a rien fait, mais en tout cas, le livre des Actes ne nous rapporte pas cela. Mais ici, à Éphèse, Luc prend un moment pour nous expliquer qu'il y a eu des miracles, et des miracles impressionnants. Alors pourquoi? Éphèse, c'était une ville qui était particulièrement liée à la magie, aux pratiques occultes, à la sorcellerie. Ces choses étaient une habitude, elles faisaient partie de leur culture. C'était une ville bien consciente de la réalité du monde spirituel, une ville où le pouvoir de Satan était particulièrement visible. Et donc ça explique pourquoi dans cette ville, Dieu fait des miracles au travers
de Paul,
pour manifester que la puissance de Jésus est bien plus grande que tout, pour que les gens qui sont prisonniers de ces choses soient amenés à écouter le message de Paul, à s'intéresser à cette puissance plus grande. Ça nous montre que les miracles, dans le livre des Actes, ils avaient un but bien précis. Montrer que la puissance de Jésus est supérieure, afin de servir la proclamation de la parole. On le voit juste avant notre passage, il est question du progrès de la parole. Paul a un beau ministère à Éphèse, il annonce l'évangile, il y a des conversions, il enseigne la parole, il forme des gens, il les envoie. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et maintenant, verset 11, il y a un complément qui nous est donné. Non seulement la parole progresse, mais il y a aussi des miracles extraordinaires. Et on doit réaliser que les deux sont liés. On ne peut pas les séparer. Les miracles ont lieu pour confirmer la parole, pour encourager les gens à écouter la parole, pour accompagner la prédication de la parole, et jamais pour la remplacer, jamais à la place d'eux. Si Dieu fait des miracles à Éphèse, ailleurs dans le livre des Actes, c'est toujours pour soutenir le progrès de la parole. Et on voit ça à la fin de notre passage aujourd'hui, la conclusion, après tous ces événements miraculeux à Éphèse, regardez le verset 20. Verset 20, c'est ainsi que, par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. Donc on voit qu'il y a des miracles qui ont eu lieu, mais qu'est-ce qui se passe en conclusion? C'est la parole qui se répand. Parce que les miracles n'ont jamais pour but d'être des événements isolés, des événements seuls. Ils n'ont jamais pour but d'être tout seuls, mais ils ont pour but d'accompagner et de servir la prédication de la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui sauve, pas les miracles. Par ces miracles, Paul apaise une souffrance temporaire. Il offre un peu de confort, un peu de répit sur cette terre. Mais ces miracles ne changent rien à l'avenir éternel de ces gens. Le plus gros problème de l'être humain, ce n'est pas la maladie physique, mais c'est la maladie du péché. Et cette maladie du péché, ce n'est pas simplement quelque chose dont on est victime, en fait, c'est quelque chose dont on est coupable. C'est notre propre rébellion envers Dieu, envers notre Créateur. C'est le rejet de Dieu, de chaque être humain, d'avoir vécu en transgressant ce que Dieu nous demande, ce que Dieu attend de nous. C'est ce péché qui nous rend coupables devant Dieu, qui nous rend condamnés pour l'éternité face au juste jugement de Dieu. Ça, c'est une réalité sérieuse. Parce que la mort est une réalité sérieuse et parce que le jugement est réel pour chacun de nous. Un miracle comme un événement isolé ne peut rien faire pour changer cette réalité. En fait, c'est même pire que ça. Si on poursuit les miracles sans s'attacher à la proclamation de la parole ou en mettant de côté la proclamation de la parole, on est simplement en train de confirmer les gens sur le chemin sur lequel ils se trouvent, le chemin de la perdition, le chemin du jugement. On refuse de leur parler de la solution, on prive les gens de la solution. Parce qu'il y a une solution qui se trouve en la personne de Jésus. Le seul innocent, le seul non coupable qui donne sa vie pour des coupables, qui donne sa vie véritablement à notre place, qui prend sur lui le jugement que nous avons entraîné. La vie, la mort, la résurrection de Jésus, c'est le moyen que Dieu a donné à une humanité rebelle et perdue d'être en bonne relation avec lui. Comme on l'a chanté, tout est accompli à la croix. C'est par la croix et la croix uniquement. Et donc ce qui compte plus que tout, bien plus que n'importe quel miracle, c'est d'annoncer ce message à chaque être humain, d'appeler chacun à se repentir, à se tourner vers Jésus, avant qu'il soit trop tard. Parce que Jésus pardonne encore aujourd'hui. C'est ça qui compte, c'est ça qu'on voit dans le livre des Actes, c'est ça qu'on voit au sein de l'Église primitive, c'est ça qu'on voit dans les lettres de Paul, le progrès de la parole, la priorité de la parole, la priorité de ce message. Les miracles ont pour but de servir ce but. C'est pas que les miracles rapportés ici ne sont pas importants, c'est pas qu'ils ne sont pas impressionnants, c'est pas qu'ils ne manifestent pas la puissance de Jésus. Non, bien évidemment, ils font ces choses. mais c'est qu'il ne faut pas les déconnecter de leur but. De s'attacher au miracle en mettant de côté la proclamation de la parole, ce serait comme essayer d'inviter quelqu'un à regarder la lumière et pas la scène sur laquelle la lumière porte. C'est regarder au mauvais endroit, c'est s'attacher à la mauvaise chose. Contrairement à ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, on ne peut pas définir l'évangélisation comme le simple fait d'aller dans la rue et d'essayer de prier pour la guérison des gens. Ce n'était pas ce que Paul et les premiers apôtres faisaient. Ils proclamaient la parole. C'était ça leur tâche première, c'est ça qu'ils voulaient par-dessus tout. Et Dieu accompagnait leur proclamation de miracles. C'est vrai que les miracles attirent, mais quand on se concentre dessus comme des événements isolés, alors on oublie l'essentiel. On oublie le seul message qui peut véritablement sauver les gens. Mais on doit aller plus loin et réaliser que les miracles dans le livre des Actes, non seulement ont pour but de confirmer la parole, mais aussi sont liés au ministère des apôtres. Les miracles sont liés aux apôtres. On voit que ce qui arrive à Paul ici, en fait, c'est un peu similaire à ce qui arrivait à Pierre en Actes 5. On voit que la simple ombre de Pierre dans Actes 5 pouvait guérir les gens. Il y avait des miracles extraordinaires. Et donc on a un lien ici, tout comme Pierre a été celui qui a annoncé l'évangile pour la toute première fois aux Juifs, alors Paul a un ministère semblable de proclamation de la parole, accompagné de miracles extraordinaires pour l'annonce de l'évangile aux non-Juifs. Donc on a un lien ici dans le livre des Actes. Et c'est le cas de manière claire dans le reste du livre des Actes, dans le reste du Nouveau Testament, où on voit que les miracles de guérison, de chasser des esprits mauvais, sont liés aux apôtres de manière unique. Aux premiers disciples de Jésus, qui étaient les tout premiers à partager l'évangile là où ils n'étaient pas connus. Et donc, ce n'est pas des choses qu'on devrait viser à reproduire aujourd'hui. J'ai mis dans le livret ce verset de Hébreux 2, versets 3 et 4. Pourquoi est-ce que Dieu a donné tous ces miracles? Voilà la réponse. Ce salut, donc le salut à propos de Jésus, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire les apôtres, les disciples de Jésus, ceux qui ont entendu Jésus parler de ce salut. Donc ce salut nous est annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Donc ce n'est pas que l'on nie ces miracles, ce n'est pas qu'on nie la présence de ces miracles, mais on veut les comprendre dans leur but. On voit le but ici, d'appuyer le témoignage des apôtres, de confirmer ce qu'ils disaient par rapport à Jésus. En donnant du crédit, en pointant vers ce qu'il disait, en confirmant ce qu'il disait. C'est donc non seulement lié à l'annonce de la parole, mais aussi lié au rôle des apôtres. C'est pour ça que l'on ne croit pas dans cette Église qu'on devrait essayer de reproduire le livre des Actes aujourd'hui. C'est une époque particulière qui était liée aux apôtres et au début de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien apprendre du livre des Actes. C'est pour ça qu'on fait une série dans le livre des Actes. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais qu'on n'est pas appelé à prendre ces choses et à les imiter et à les reproduire. On doit réaliser que souvent en faisant ça, de toute manière, on le fait de manière très sélective. On choisit de reproduire ce que l'on veut, ce qui nous arrange. Mais on croit de manière générale, ce n'est pas la bonne manière de le comprendre. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut plus faire de miracles. Il n'est pas question ici de possibilité de ce que Dieu peut faire. Bien sûr que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Bien sûr que Dieu a tout pouvoir. Mais il s'agit de ce que l'on devrait s'attendre à ce que Dieu fasse. Qu'est-ce que Dieu a promis? Qu'est-ce qu'on devrait poursuivre? Qu'est-ce qu'on devrait rechercher? On croit que revivre ou essayer de reproduire ce que Dieu a fait de manière unique au début de l'Église chrétienne, c'est au final mettre de côté là où Dieu a choisi de manifester sa puissance aujourd'hui. On a le témoignage des apôtres qui nous a été donné de manière unique et suffisante dans le Nouveau Testament. Ce témoignage à propos de Jésus, ce témoignage centré sur la croix, c'est ça que l'on proclame. Et c'est ça qui est véritablement puissant. C'est de ça dont Dieu se sert pour changer les cœurs, pour sauver les âmes. Ce qu'on veut, c'est que les gens portent les regards, non pas vers un miracle temporaire, mais vers la grandeur de Jésus dans l'Évangile. On veut qu'ils réalisent que le nom de Jésus, c'est le nom qui guérit de ce qu'il y a de plus sérieux, qui sauve, qui pardonne de notre rébellion, de notre péché. Ce qu'on veut, c'est qu'ils réalisent que le nom de Jésus ne chasse pas simplement les esprits mauvais de manière temporaire, mais qu'il nous transporte réellement du royaume des ténèbres jusque dans le royaume de Dieu, qui a un changement de sphère, un changement de maître. C'est cet évangile que les apôtres cherchaient à mettre en avant, et c'est cet évangile qu'on met en avant aujourd'hui, qui est pleinement suffisant pour attirer, pour convaincre ceux qui nous entourent. Donc on n'a pas besoin de parler de ce que l'on entend parfois du plein évangile, qu'on aurait besoin du plein évangile. Voilà, l'évangile, la vie, la mort, la résurrection de Jésus, mais aussi Jésus qui guérit, Jésus qui veut guérir, Jésus qui doit guérir, et qu'il faut les deux pour avoir le plein évangile. Mais en fait, l'évangile est déjà plein en lui-même. La vie, la mort et la résurrection de Jésus sont déjà suffisants, on n'a rien besoin de plus. Et on voit dans le livre des Actes que les deux ne sont pas mixés, les miracles et l'annonce de la parole, mais que les miracles ont un but précis de confirmer et de mettre en avant la parole. Alors je suis conscient que ça peut susciter beaucoup de questions et qu'on a déjà passé assez de temps sur ce point-là, mais si vous êtes troublés par cela, venez nous en parler, on serait heureux d'en discuter. Parlez-en entre vous, c'est des choses dont on a besoin de parler les uns avec les autres. Deuxièmement, ce matin, dans la suite du passage, Jésus ou autre chose, il faut choisir. Jésus ou autre chose, il faut choisir. On a ensuite ce récit qui est presque un peu drôle, il faut le dire, de ces exorcistes juifs. Donc des juifs qui essayaient de chasser les démons, qui étaient impliqués dans ces pratiques. Ils ont entendu parler de la puissance du nom de Jésus. Ils ont probablement vu des miracles que Paul faisait. Et ils disent, mais eux aussi, ils veulent essayer de faire appel à cette puissance. Ils ne connaissent pas vraiment Jésus. Pour eux, Jésus, c'est simplement celui que Paul prêche. C'est ça qu'ils disent. Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. C'est quelqu'un de lointain, de distant, d'inconnu. Mais ils se disent, c'est peut-être une bonne formule magique pour chasser les esprits mauvais. Mais non seulement ça ne marche pas, mais aussi ça ne finit pas comme prévu pour eux. Au lieu de chasser l'esprit mauvais, c'est eux qui sont chassés. L'esprit leur demande, mais il connaît Jésus, il sait qui est Paul, mais vous, qui vous êtes? Il n'a aucune idée de qui sont ces usurpateurs. Et le résultat est assez humiliant. Ce passage nous montre plusieurs choses. Il nous montre d'abord qu'il ne faut pas prendre le monde spirituel à la légère. Il ne faut pas prendre le monde spirituel à la légère. Il y a une vraie puissance qui nous dépasse, nous, en tant qu'êtres humains. C'est vrai qu'on vit dans une société qui est très matérialiste, très rationaliste, et du coup on peut facilement ignorer ces choses, les mettre de côté, pas les prendre au sérieux. Mais la Bible dit qu'il y a un monde spirituel qui existe, qu'il y a des puissances mauvaises. Le diable et les démons n'existent pas comme ils existent dans les films, mais ils existent réellement. C'est une réalité. Et on doit réaliser le danger qu'il y a de jouer avec ce monde spirituel. Et c'est frappant de constater que même si on est une société qui veut rejeter Dieu, qui veut rejeter la croyance en un Dieu unique, qui se définit comme étant matérialiste, peut-être même athéiste, en fait on est de plus en plus attiré par les spiritualités orientales, par le New Age et par toutes sortes de choses qui nous semblent un peu plus cool, un peu plus trendy, et c'est les choses qui gagnent en popularité en ce moment. Le marché de l'ésotérisme est en pleine expansion. C'est ça qui attire sous différentes formes. Les tarots, les oracles, les cristaux de guérison, les allumettes, les talismans, l'astrologie, la méditation, la magie. Plein de pratiques qui se popularisent, qui se présentent comme étant saines, comme inoffensives, comme visant notre bien-être, visant notre confort, notre bon développement. Alors c'est vrai que certaines de ces pratiques sont juste des superstitions naïves qui n'entraînent rien, qui font simplement preuve d'un manque de compréhension de qui Dieu est et de la manière dont le monde fonctionne. Mais d'autres pratiques prennent à la légère la réalité du monde spirituel, ignorent qu'il y a des vraies puissances derrière ces choses et qu'il ne faut pas jouer avec. Ça ne veut pas dire qu'on doit craindre ce monde spirituel en tant que chrétien. Jésus est plus puissant, c'est ce qu'on voit dans ce passage, on va le voir à la fin. La parole progresse, c'est la parole qui gagne, pas les puissances spirituelles. On est du bon côté. On est du côté de celui qui a vaincu le diable, de celui qui a tout pouvoir, qui a, comme le dit Colossiens 2, dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Donc on ne vit pas dans la crainte. On ne vit pas notre vie chrétienne en tremblant, mais on la vit de manière normale, dans la dépendance à Dieu, en restant attaché à l'Évangile, en sachant qu'on n'a rien à craindre. C'est là que se trouve la vraie puissance. Mais refusons de jouer avec ces choses. Mais ce récit nous montre aussi qu'on ne peut pas prendre le nom de Jésus à la légère. Ces exorcistes juifs pensaient que le nom de Jésus, c'était comme une formule magique. Voilà, je le prononce et je peux obtenir ce que je veux. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui, la vraie puissance se trouve en Jésus, mais Jésus n'est pas notre serviteur. La vraie puissance se trouve dans une relation personnelle avec Jésus, alors qu'on place sa confiance dans l'Évangile, la bonne nouvelle qui le concerne. Son nom n'est pas une formule magique. C'est très différent, il faut le dire, de ce que certains enseignent aujourd'hui concernant les démons, concernant le monde spirituel, en disant qu'il faut utiliser des mots très précis pour pouvoir, soi-disant, chasser les démons, trouver les bonnes formules, répéter encore et encore avec une voix forte le nom de Jésus, les titres de Jésus, etc., etc. Mais faire ça, c'est une pratique plus païenne que chrétienne. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Jésus ne nous demande pas de trouver des formules magiques. Il nous demande de placer notre foi en lui, de réaliser que la vraie puissance se trouve en lui, dans sa personne, alors qu'on a une relation simple et vivante avec lui, alors qu'on comprend l'Évangile et qu'on comprend la repentance que ça implique. Je suis conscient qu'il faudrait dire beaucoup plus par rapport à ça, mais c'est pour ça que j'ai recommandé ce webinaire de Florent Varac, qui aura lieu mardi soir, sur l'occultisme et la radicalité de l'Évangile. Et je vous encourage vraiment à le regarder, vous pourrez le regarder en replay, ce sera sur YouTube. Florent Varac a beaucoup enseigné là-dessus pour comprendre un peu plus les implications de ce que l'on dit ici et quelle est une bonne approche à ces choses-là, d'une manière qui est centrée sur l'Évangile. Ce sera sur toutpoursagloire.com. Donc on doit réaliser que le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique, il ne doit pas être pris à la légère. Et on doit être conscient qu'il est possible de considérer le nom de Jésus comme une formule magique d'une manière qui ne concerne pas forcément le monde spirituel. C'est très facile de simplement réclamer certains bénéfices de la foi chrétienne de manière externe, de la part de Jésus, sans réellement avoir placé sa confiance en lui. De penser que Jésus, au final, est un peu un porte-bonheur avec une couche chrétienne. Voilà ce que dit un auteur américain. « Tout autour de nous, il y a des gens prêts à faire appel au Seigneur Jésus, mais qui ne veulent pas de l'Évangile. Ils sont prêts à faire appel à un doux Jésus, qui sera leur compagnon constant et leur talisman spirituel, mais ils ne sont pas intéressés par la connaissance de Jésus en tant que fils incarné de Dieu. Ils veulent un Jésus qu'ils peuvent utiliser, pas un Jésus qui sauve. » C'est facile de transformer Jésus en talisman spirituel, en un porte-bonheur. Je porte le nom de chrétien, je vais à l'église de temps en temps, mais alors tout doit aller bien pour moi. Je vais avoir une bonne vie qui va bien se passer. Mais faire cela, c'est prendre Jésus comme un serviteur en refusant de le suivre comme maître. C'est vouloir prendre les bénéfices du christianisme sans réaliser le coût qu'il y a à suivre Jésus. C'est prendre le nom de Jésus à la légère. C'est ajouter Jésus à notre vie bien remplie, sans rien vouloir changer. Jésus est juste un gris-gris religieux, un porte-bonheur spirituel, un truc de plus sur l'étagère. Mais ce n'est pas comme ça qu'est Jésus. Jésus réclame notre cœur, il réclame notre vie. C'est tout ou rien. Jésus ou autre chose, il faut choisir. Vous avez peut-être entendu parler du syncrétisme. C'est le fait de mixer plusieurs religions, mixer plusieurs croyances qui sont opposées entre elles et de dire, voilà, on va tous les prendre ensemble et on va les mélanger. Et en fait, Éphèse était une ville très syncrétique. Il y avait de tout, vraiment, là-bas. On le voit avec ces exorcistes juifs qui sont juifs et qui pourtant n'ont aucun mal à faire appel au nom de Jésus pour servir leurs propres intérêts. Donc il y avait vraiment l'idée de mixer toutes les croyances. Et pour beaucoup, la foi chrétienne est encore vue comme cela. Voilà, on va juste mixer la foi chrétienne avec d'autres croyances que l'on a. Mais la foi chrétienne n'est pas comme ça. Il faut choisir. Croire en Jésus, suivre Jésus, réclamer le nom de Jésus, ça implique de se détourner de toute pratique, de toute croyance qui s'y oppose. C'est tout ou rien. Et en particulier, ça implique de se détourner de toute pratique qui serait occulte ou magique, qui jouerait avec le monde spirituel. Et les croyants d'Éphèse qui baignaient dans cela, qui avaient grandi dans cela, ils en sont venus à comprendre à quel point c'était le cas. Qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre de la même manière en portant le nom de Christ. Ils en viennent à réaliser les implications de leur nouvelle foi en Jésus. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent tout de côté, de manière publique. Regarde avec moi les versets 18 et 19. Voilà ce qu'il est écrit, acte 19, versets 18 et 19. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. Ce qu'ils déclarent publiquement, ce qu'ils brûlent, c'est leur pratique magique, leur sorcellerie, leurs interactions avec le monde occulte. Il s'agissait probablement des amulettes et des formules magiques imprimées, des choses de valeur à l'époque. Mais ils choisissent de tout brûler. C'est un moyen d'afficher publiquement leur couleur, de renoncer publiquement à ces choses, de reconnaître que ces choses ne valent rien, qu'elles ne sont pas de bonnes choses, qu'ils ont changé de camp, qu'ils ont renoncé à tout cela, même si ça leur coûte. Il nous est précisé que la valeur de toutes ces choses, c'était 50 000 pièces d'argent. Alors pour nous, ça ne veut rien dire, mais si on fait l'équivalent, c'était environ 130 années de travail d'un ouvrier, sans vacances. Probablement, on dirait entre 2 et 3 millions d'euros. Certains estiment un peu plus, 5 ou 6 millions d'euros. En tout cas, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas rien. C'est une grande somme d'argent. Ils auraient pu vendre cela pour ne pas perdre autant financièrement. Quel gâchis, quelqu'un pourrait dire. Pourquoi ils n'ont pas vendu au lieu de tout brûler? Mais ils ont tout brûlé, parce qu'ils ont reconnu que c'était du poison, que ce n'était bon pour personne, que c'était faux, que c'était mauvais, que ça s'opposait totalement avec la foi chrétienne. Ils veulent mettre Jésus à la première place, ils ont compris la repentance, ils ont compris le renoncement à soi, le coût de suivre Jésus. On doit choisir, on ne peut pas suivre Jésus et autre chose qui s'y oppose. Il n'y a pas de syncrétisme avec Jésus, c'est tout ou rien. Il faut choisir. Et ça nous montre qu'il y a des moments où la foi chrétienne va s'opposer à la culture. Ce n'est pas que la foi chrétienne s'oppose à tout dans la culture d'où on vient. Ce n'est pas que devenir chrétien veut dire qu'on rejette notre culture, notre tradition, nos habitudes familiales. Mais ça veut dire que devenir chrétien voudra dire rejeter, mettre de côté ce qui s'oppose à ce que Jésus demande. Ce qui s'oppose avec la foi chrétienne, qu'on ne peut pas mixer. Ce qui s'oppose à la seigneurie de Jésus, comme c'était le cas ici. Ça n'aurait pas été une solution pour ces croyants éphèses de dire « Non, mais c'est l'habitude, c'est notre tradition dans la famille, dans notre pays, c'est ça qu'on fait, on va continuer. On va avoir ces choses sans vraiment y croire derrière. » Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un pouvoir réel derrière ces choses, un pouvoir qui s'oppose à celui de Jésus. Parce qu'on ne peut pas mixer Jésus avec autre chose. Il y a des limites à ne pas franchir. Alors je suis conscient qu'on est tous, on fait tous partie de cultures bien différentes et c'est une des richesses de cette église à Aulué, on est reconnaissant pour cela. Et ce que je vous encourage, c'est de parler avec des gens de votre culture, de ce que ça pourrait impliquer pour vous, de dire il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire en tant que chrétien. Je suis tombé un peu par hasard, entre guillemets, sur le témoignage d'un homme, c'était Porte Ouverte qui le rapportait, qui était en fait... pas de souci. Ça ne fait pas partie de la prédication. Je suis tombé sur un témoignage d'un homme qui était devenu chrétien et qui était, en fait, c'était une vidéo où il était insulté, il était frappé par le chef de son village à cause de sa foi en Jésus et ça a vraiment attiré mon attention. Et voilà ce qui était écrit comme description. Mine, un agriculteur marié et père d'une fille, vivait dans une région isolée où il n'avait jamais entendu parler de Jésus. Tout a changé lorsqu'un ami lui a partagé l'amour et le pardon du Christ. Convaincu, Mine, sa femme et sa mère ont accepté Jésus et toute leur famille s'est convertie. Depuis février 2024, leur vie a été transformée. Mine, autrefois dépendant au jeu et à l'alcool, a tout arrêté. Aujourd'hui, ils fréquentent l'église régulièrement et grandissent dans leur foi. Mais leur conversion a entraîné de lourdes conséquences. Le chef du village, donc qu'on voyait sur cette vidéo, a violemment réagi en menaçant Mine de lui couper l'accès à l'eau, aux aides sociales et d'interdire sa fille d'aller à l'école. Pourquoi une telle opposition? Mine et sa famille appartiennent à la tribu Hmong, un peuple animiste. Ce peuple croit que chaque élément de la nature est habité par un esprit, essentiel au bien-être et à la santé des humains. Selon eux, ne plus honorer ces esprits risque d'attirer leur colère et de provoquer la malchance et la maladie sur toute la communauté. Alors voilà un exemple d'un chrétien qui a réalisé qu'il ne pouvait pas honorer ses soi-disant esprits, qu'il ne pouvait pas mixer Jésus avec autre chose, qui a dit non, stop, pas plus loin, même si ça lui a coûté. Donc ce que l'on voit dans notre passage, c'est que la puissance de Jésus est plus grande, Dieu confirme la parole par des miracles, et qu'on est face à un choix, on ne peut pas mixer Jésus avec autre chose. Alors pour conclure, on doit réaliser que dans notre société dans laquelle on vit, il y a deux mensonges que Satan voudrait nous faire croire par rapport à toutes ces choses. D'abord, il voudrait nous faire croire qu'il n'existe pas. Et ça, c'est le danger qu'on a ici, en Occident, dans cette société matérialiste, d'oublier la réalité du combat spirituel, d'oublier l'influence réelle de Satan et des démons sur notre monde, même quand elle n'est pas visible. Mais la Bible nous dit que le monde entier est au pouvoir du malin. 2 Corinthiens 4 nous dit que Satan est le dieu de ce siècle qui aveugle les pensées des incrédules. Non, il existe. Il est bien présent. Il est bien à l'œuvre pour s'opposer à Christ et au progrès de l'Évangile. Peut-être que dans notre pays, son influence n'est pas aussi visible qu'à Éphèse et dans d'autres endroits du monde. Mais son influence est bien là. Alors qu'on voit le monde s'éloigner de plus en plus des normes que la Bible met en avant, alors que le fait d'enseigner, de vivre ce que la Bible demande est de plus en plus coûteux, qualifié d'intolérant, on voit l'influence de Satan sur ce monde. Mais le deuxième mensonge que Satan veut nous faire croire, c'est que s'il existe, alors il est à craindre parce qu'il aurait plus de puissance que Dieu. Mais on ne peut pas être plus loin de la réalité. Le monde n'est pas l'opposition de deux puissances, Dieu d'un côté et le diable et les démons de l'autre, comme si on ne sait pas vraiment qui va gagner et c'est un combat constant. Non, la puissance de Dieu est bien supérieure. Dieu est au contrôle de son monde. Il est au contrôle du monde et de l'univers. Jacques 2 nous dit que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils savent que Dieu existe, parce que Dieu est bien plus puissant. Et c'est ce qu'on voit dans notre passage, la conclusion, verset 20. « C'est ainsi que, par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. » Même à Éphèse, c'est la parole qui gagne. Et c'est ça qu'on voit dans tout le livre des Actes, que c'est la parole qui gagne, que Satan ne peut pas empêcher le progrès de l'Évangile, parce que la force de Dieu est plus forte. C'est Satan notre désir, n'est-ce pas, encore aujourd'hui, à Bruxelles, en Belgique, que la parole continue à se répandre. Et parfois, ça peut nous sembler vraiment impossible. On se sent peut-être dépassé. On se sent impuissant face aux forces qui s'opposent à nous, face au monde qui est anti-chrétien, et on peut douter. Notre travail, c'est de continuer à nous attacher à cette parole, de continuer à répandre cette parole, et Dieu sera à l'œuvre. La force de Dieu sera à l'œuvre et sera bien plus forte. Alors, c'est pas une surprise qu'on va partir dans quelques mois, dans deux mois, pour la Suisse. Et ça nous attriste, et ce n'est pas le mot d'au revoir, vous inquiétez pas, ce n'est pas la dernière prédication, mais ça nous fait réfléchir, et ça me fait réfléchir, et en méditant ce texte, ça me fait réfléchir également à me dire, mais c'est ça qu'on voudrait comme nouvelle, alors qu'on vous contacte, qu'on demande comment ça va à Bruxelles, d'entendre que la parole continue à progresser, que vous restez fidèlement attachés à cette parole. C'est ça qu'on espère, n'est-ce pas? Et c'est ça que vous, vous espérez pour nous en Suisse, quand vous demanderez des nouvelles, que ça soit la parole qui progresse. C'est ça qui est le plus important. C'est ça notre désir. Et c'est ça que Dieu a promis de faire alors qu'on sert fidèlement. Prions pour terminer. Notre Dieu, on te remercie parce que ta parole nous instruit, nous encourage, nous édifie. Aide-nous, notre Dieu, à prendre ces vérités au sérieux, à les appliquer dans notre vie. On te prie qu'elles prennent racine dans notre cœur. Et qu'on puisse vivre en réalisant que la puissance de Jésus est bien supérieure. Aide-nous à pouvoir discuter ces choses ensemble de la bonne manière et à pouvoir nous encourager les uns les autres à proclamer et répandre la parole encore aujourd'hui. On prie cela dans le nom de Jésus. Amen.